Prenez garde, veillez. Marc chapitre 13, versets 33 à 37. Le Seigneur Jésus a dit qu'il reviendra un jour sur terre. Il a aussi décrit comment cela se produira. Son retour sera soudain et tout à fait inattendu. Lisons son enseignement en Marc chapitre 13, versets 33 à 37. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Notez bien l'insistance des paroles de Jésus dès le début de cette section. Prenez garde. Veillez. Ces deux verbes ont presque la même signification, et tous les deux soulignent l'importance de la vigilance. Soyez sur vos gardes. Je vous le dis, soyez sur vos gardes. Notez aussi la répétition du mot « veiller ». Il apparaît 4 fois, presque à chaque verset. Versets 33, 34, 35 et 37. En lisant un avertissement de cette nature, plusieurs questions viennent à notre esprit. Prendre garde à quoi? De quoi exactement dois-je me méfier? Jésus affirme que personne n'en connaît le moment. Est-ce que cela signifie que je dois être sur mes gardes à tout moment? En pratique, comment peut-on vivre ainsi? Ce mot « veiller » est important dans l'enseignement de Jésus. Il est utilisé au moins 2 autres fois à la fin de son ministère, chaque fois avec la mention que nul ne sait à quel moment Christ sera de retour. Matthieu chapitre 24, verset 42. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Matthieu chapitre 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Le texte de Matthieu chapitre 24 est fort intéressant, car il compare le retour du Christ à un brigand qui s'introduit dans une maison pour commettre un vol. Lisons ce passage, Matthieu chapitre 24, versets 42 à 44. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Dans cette histoire, le voleur représente Jésus. À première vue, cela peut sembler surprenant. Évidemment, le point de comparaison ne fait pas de Christ un voleur. Nous pouvons associer cette situation à la parabole qui compare Dieu à un juge injuste, dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Il est clair que Dieu n'est pas un juge injuste, mais il peut paraître injuste dans la perspective de certains. Ce que Jésus veut souligner en Matthieu, c'est que, à la manière d'un voleur qui s'introduit discrètement dans une maison, son retour sur terre prendra tout le monde par surprise. L'action d'entrée en catimini sert à illustrer le caractère imprédictible de l'événement. C'est pourquoi Jésus dit, « Si le maître de la maison avait su à quelle heure le voleur allait venir, il ne lui aurait pas laissé faire. » Mais il ne savait pas. De même, le Fils de l'homme reviendra à un moment où personne ne s'y attend. Jésus prévient donc ses disciples de la soudaineté de son retour. Il va répéter cet avertissement quelques versets plus loin, lorsqu'il compare le temps de son retour au jour de Noé quand le déluge frappa soudainement la terre. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu chapitre 24, versets 38 et 39. Pour le monde profane, le déluge fut une surprise foudroyante qui balaya tout sur son passage. Pareillement, le retour du Fils de l'homme sera foudroyant. Notre passage en Marc soulève une autre question importante. Un cambriolage est normalement une expérience très traumatisante. Comment peut-on alors l'associer à celle d'accueillir le Seigneur à son avènement? Tous les croyants ressentent une joie extrême à l'idée de retrouver le Seigneur Jésus. Pour ceux qui lui sont fidèles, ce sera l'occasion d'une grande célébration. Loin d'eux, l'idée de traiter comme un voleur. Est-ce que Jésus serait en train de suggérer que son retour sur terre donnera lieu à une mauvaise expérience? Eh bien, la réponse est à la fois oui et non. Ici, Jésus n'y va pas par quatre chemins pour parler de la réalité et de la gravité du jugement à venir. Il compare son retour à un cambriolage, car pour ceux qui ne s'attendaient pas à le voir, son retour a l'effet d'un cambriolage. En d'autres mots, si à son retour, il vous prend au dépourvu, sans préparation, vous subirez une perte. Élaborons davantage ce point. Lorsqu'un voleur s'introduit dans une maison, que fait-il? Est-ce qu'il va se présenter au propriétaire et le saluer? Bien sûr que non. Il va discrètement visiter les pièces de la maison avant de s'éclipser, emportant avec lui quelques items de valeur. Et lorsque le propriétaire se réveillera le lendemain matin, celui-ci s'apercevra que certaines choses ont disparu. Il se rendra compte qu'il vient de subir la perte de quelques objets. La mise en garde du Christ est donc la suivante. Lorsque je reviendrai, si votre niveau de préparation est déficient, vous allez subir une perte. En 1 Thessaloniciens, chapitre 5, l'apôtre Paul se sert de la même image du voleur nocturne pour nous prévenir que le jour du Seigneur sera un jour de ruine et de jugement, qui tombera sur ceux qui sont des ténèbres, c'est-à-dire ceux qui ne s'attendent pas au retour du Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 2 à 4. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. L'apôtre Pierre aussi utilise l'analogie du voleur que personne n'attendait. 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Vous voyez que dans un sens, Jésus reviendra comme un voleur, c'est-à-dire de façon soudaine et inattendue. Personne ne connaît le jour ou l'heure. Les anges ne le savent pas. Même le Seigneur Jésus n'en connaît pas le moment. Seul Dieu le Père le sait. Dans un autre sens, c'est l'aspect de la préparation qui est considéré. Le jour du Seigneur ne viendra pas comme un voleur pour ceux qui s'y étaient préparés. mais pour les incroyants, ceux qui ne croient pas qu'il reviendra, ce sera une situation comparable à un cambriolage. Ils subiront une terrible perte. Revenons maintenant au mot « veiller ». Prenez garde, veillez. Matthieu chapitre 13, verset 33. Le mot grec qui est traduit ici par « veiller » est « agroupneo » et signifie littéralement « sans sommeil ». Il est formé de deux mots. Un, la particule privative « alpha » qui marque l'absence d'une chose, et deux, « upnos » qui signifie « sommeil ». De manière littérale, il exprime une absence de sommeil. Vous êtes sans sommeil. Vous veillez au point d'être constamment en état d'éveil. Vous refusez de tomber endormi. Dans le contexte de Marc chapitre 13, verset 34, le portier avait reçu l'instruction de veiller. Il devait rester éveillé et être prêt à tout moment pour ouvrir la porte de la maison si son maître était de retour. C'est la signification fondamentale du terme « veiller » en grec. En français, ce n'est pas aussi clair. Lorsque nous entendons le mot « veiller », nous avons tendance à demander « veiller à quoi ?»« Veiller sur quoi ?» Il n'en est pas ainsi en grec. Il ne s'agit pas a priori de prêter attention à quelque chose. L'emphase n'est pas sur le quelque chose, mais sur l'état d'esprit d'une personne, sur la condition mentale de vigilance. Veiller en grec signifie rester en état d'éveil, être sans sommeil, éviter de s'endormir. Il est important de bien comprendre cet aspect du mot veiller. À cet égard, nous devons mentionner que dans la Bible, le sommeil est souvent synonyme de mort. Prenons par exemple Psaume chapitre 13, verset 3. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Le psalmiste dit, ravive-moi, Seigneur, sinon je vais mourir. S'endormir du sommeil de la mort. C'est mourir. Si donc le sommeil fait allusion à la mort, par analogie, être éveillé prend la signification d'être en vie. Nous devons garder cela à l'esprit pour comprendre correctement les paroles de Jésus. Il y a un autre mot en grec qui est traduit par le terme veiller. Et c'est le mot gregoreo. Gregoreo signifie rester réveillé, être sur le qui-vive, demeurer actif, être vigilant. Jésus dit en Matthieu chapitre 25, verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez. Gregoreo. Il est inutile de tenter de deviner la date du retour du Christ. Personne n'en connaît le jour ni l'heure. Ce qui importe, c'est de rester éveillé et d'être toujours prêt pour son retour. Une image commence maintenant à se dessiner. Dans cette image, nous apercevons deux individus. Il y en a un qui est endormi, ou à tout le moins qui est assoupi, et un autre qui est réveillé et tout à fait alerte. Le Seigneur Jésus nous demande de rester éveillé à son retour, sans quoi nous subirons une perte douloureuse. Et si nous reprenons son analogie, être réveillé, c'est être spirituellement vivant. Être endormi, c'est être spirituellement mort. L'apôtre Paul fait usage du même genre de métaphore en Éphésiens chapitre 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Remarquez la relation entre dormir et être mort. Relève-toi d'entre les morts. Toi qui es mort, relève-toi de ton sommeil. Il y a donc deux types de personnes. D'un côté, nous avons des personnes spirituellement vivantes. De l'autre côté, il y a des personnes spirituellement mortes. En empruntant le langage de Jésus, nous pourrions dire qu'il y a des personnes éveillées et des personnes endormies. À l'heure actuelle, l'Évangile appelle les hommes à la vie dans l'espoir de réveiller chaque être humain qui dort. Ainsi, la Bible compare la prédication de l'Évangile au son de la trompette qui nous réveille le matin. Paul nous dit « Réveillez-vous, vous qui êtes endormis, réveillez-vous de la mort spirituelle. Christ vous donnera sa lumière. Christ vous apportera la vie. » Notez que la responsabilité de se réveiller, de répondre à l'Évangile, repose sur les épaules des hommes. Dieu a déjà fait sa part dans la proclamation de sa parole. Il a fait sa part en laissant retentir des trompettes aux oreilles des hommes. Puisque l'Évangile a la capacité de tirer du sommeil toute personne qui a le désir de se réveiller, il revient maintenant à l'homme de prendre une décision. Plusieurs ne voudront pas sortir de leur sommeil. D'autres se réveilleront, mais ils auront le sentiment que l'Évangile les dérange trop. Alors, ils se boucheront les oreilles pour ne rien entendre. J'aimerais maintenant vous amener à 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 5 à 10. Ce texte est très intéressant. Il semble que Paul, en écrivant ce passage, avait clairement en tête l'enseignement de Jésus dans son utilisation de l'état de sommeil et d'éveil. Voici ce que nous lisons. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas en pleine obscurité pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous tous, en effet, vous dépendez de la lumière, vous appartenez au jour. Nous ne dépendons ni de la nuit, ni de l'obscurité. Ainsi, nous ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés, sobres. Les dormeurs, c'est la nuit qu'ils dorment, et les buveurs, c'est la nuit qu'ils s'enivrent. Mais nous, qui appartenons au jour, nous devons être sobres. Prenons la foi et l'amour comme cuirasse, et l'espérance du salut comme casque. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est mort pour nous afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons vivants ou morts quand il viendra. » Nous constatons que Paul utilise le mot « dormir » dans plus d'un sens. Il dit « Nous sommes des enfants du jour. Ne dormons pas lorsqu'il fait jour. Ceux qui dorment le font durant la nuit, mais nous ne sommes pas des fils de la nuit. Nous n'avons rien à faire avec des ténèbres. Ainsi, nous voulons rester sobres et alertes. » Vous voyez que ce texte de Paul semble être tiré directement de l'enseignement du Christ. Soulignons plusieurs contrastes. Ça nous permettra de saisir le texte avec plus de profondeur. Il y a d'abord le contraste entre la nuit et le jour, au verset 5, 7 et 8. Il y a le contraste entre dormir et veiller, au verset 6 et 7. Il y a un accent sur la nuit et les ténèbres, au verset 4 et 5. Il y a un accent sur le jour et la nuit, au verset 5 et 8. Il y a un contraste entre l'ivresse et la sobriété, au verset 6, 7 et 8. Il y a le contraste entre la colère de Dieu et le salut, au verset 9. Et finalement, il y a le contraste entre la vie et la mort, au verset 10. En analysant ces divers contrastes, nous pouvons percevoir deux grandes lignes de pensée. Première ligne de pensée. Nuit, ténèbres, dormir, ivre, mort, colère. Deuxième ligne de pensée. Jour, lumière, veillée, sobre, vie, salut. En plaçant ces deux lignes de pensée en parallèle, nous voyons que veiller est associé à dormir. La signification du mot veiller commence à prendre tout son sens. Veiller signifie être spirituellement en vie et désigne une certaine qualité dans notre conduite. La personne qui veille, vit comme celui qui est spirituellement éveillé, quelqu'un qui vit dans la lumière, c'est-à-dire dans la justice. La lumière fait référence à la justice de Dieu. L'obscurité, du point de vue biblique, fait référence au mal, à la noirceur du péché. Je répète, veiller signifie rester éveillé spirituellement. Et qu'est-ce que cela signifie, rester éveillé spirituellement? C'est vivre dans la lumière. C'est mener une vie caractérisée par la justice et la vérité. Nous avons mentionné plusieurs fois dans le passé que le christianisme ne peut pas se définir simplement par le fait de croire à certaines vérités bibliques, comme celle affirmant que Jésus a été crucifié il y a 2000 ans, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité au troisième jour. Toutes ces vérités sont importantes, mais elles n'ont aucun pouvoir de nous mener au salut tant que nous ne leur avons pas permis de nous réveiller. C'est là que la foi prend tout son sens. La foi provoque un réveil spirituel. Par la foi, nous passons du royaume des ténèbres au royaume de la lumière et nous devenons la nouvelle créature mentionnée par Paul en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. En appartenant à la lumière, il se produit une transformation radicale de notre attitude et de notre conduite. Il y a donc, dans le mot « veiller », une allusion à un changement radical de notre attitude. Retournons à Matthieu chapitre 24 pour analyser ce point. En Matthieu 24, verset 44, le Seigneur Jésus conclut une partie de son enseignement en déclarant que la date de son retour est un secret. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Regardez maintenant le verset suivant, verset 45. Après avoir affirmé qu'on ne peut pas fixer le moment de son retour, il en explique la conséquence logique. Il dit, « Quel est donc ?» Le mot « donc » est important. Il représente et présente la conséquence de ce qui vient d'être dit. Si donc, si tel est le cas, il s'ensuit donc. « Quel est donc » signifie, compte tenu de ce que nous venons tout juste de dire sur l'impossibilité de prédire la date du retour du Christ, et quelle en est la conséquence, il s'ensuit que vous devez veiller. Si le retour du Seigneur est impossible à prévoir, alors vous devez veiller. Vous devez vous tenir prêt à tout instant. La question est maintenant de savoir ce que être prêt signifie spirituellement. C'est ce que Jésus va expliquer. Il débute avec les mots introductifs « Quel est donc ?» Lisons Matthieu, chapitre 24, versets 45 à 50. « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, notez le retour du maître, trouvera faisant ainsi, c'est-à-dire accomplissant le travail qu'on lui a confié. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir. » S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. Où vont les hypocrites? Ils vont en enfer. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Où les hommes vont-ils pour pleurer et grincer des dents? En enfer. Ce texte sert d'avertissement sur les conséquences terribles qui affligeront l'individu qui ne se prépare pas pour la venue de Jésus, qui ne veille pas consciencieusement. Le fidèle serviteur était prêt pour le retour de son maître, non pas parce qu'il se tenait près de la fenêtre pour l'attendre, mais parce qu'il s'acquittait fidèlement des responsabilités qu'on lui avait données. L'erreur du mauvais serviteur a été de présumer que le maître de la maison ne pouvait pas revenir tout de suite et qu'il avait encore du temps avant d'avoir à lui rendre des comptes. L'histoire des serviteurs nous amène à poser la question suivante. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il encore des hommes qui lui seront fidèles? Nous trouvera-t-il, comme le fidèle serviteur de la parabole, en train d'accomplir le travail auquel nous avons été appelés? Et à quoi sommes-nous appelés? Paul enseigne que nous sommes appelés à vivre une vie de justice. Nous sommes appelés à vivre dans la sainteté et la vérité. Que signifie donc le mot « veiller » ? Comme nous l'avons mentionné au début, ce n'est pas uniquement de surveiller quelque chose. L'accent est mis sur la manière de surveiller ce quelque chose. Lorsque Jésus parle de veiller, il fait allusion à un état d'esprit, à un état de préparation. Et dans cet état d'être, nous restons éveillés en vivant la vie chrétienne, en vivant dans la lumière. Nous vivons de manière à exprimer quotidiennement notre fidélité à Dieu. Ainsi, lorsque le Seigneur reviendra, il nous trouvera éveillés, spirituellement vigilants, travaillant pour l'avancement de son royaume. Terminons notre leçon par cette autre question. Qu'est-ce qui provoque le sommeil chez une personne? Qu'est-ce qui rend une personne somnolente sur le plan spirituel? Juste avant de demander à ses disciples de veiller, Jésus mentionne ceci en Luc chapitre 21, versets 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de peur que votre cœur ne s'alourdisse dans les excès, les ivresses, les inquiétudes de la vie, et que ce jour n'arrive sur vous à l'improviste, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Restez donc éveillés et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Jésus dit que notre cœur peut s'alourdir. Ce mot s'alourdir, baréo, est très intéressant. Il est utilisé en Matthieu chapitre 26, verset 43, pour décrire la lourdeur des yeux des disciples qui tentaient de rester éveillés. En revenant à eux, il les trouva encore endormis. Jésus trouva des disciples endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Les paupières des disciples étaient tellement lourdes, baréo, qu'ils avaient peine à garder leurs yeux ouverts. Ils ne pouvaient s'empêcher de tomber endormis. Jésus leur avait dit, « Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. » Les disciples ont essayé de veiller et de prier, mais c'était plus fort qu'eux. Leurs paupières étaient trop pesantes. À la fin, Jésus revint auprès des disciples et leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez? » Nous avons tous connu l'expérience d'avoir des paupières pesantes. Mais comment le cœur peut-il être pesant? Comment peut-il s'alourdir? Qu'est-ce qui provoque le sommeil chez un individu? Il y a trois mots ici qui expliquent cette condition. Le premier est le mot excès. Il fait référence à une certaine frivolité, à la sensation d'euphorie causée par un abus d'alcool, lorsque le contrôle moral commence à se relâcher. Le deuxième mot est le mot ivresse. Il s'agit d'un état d'intoxication franche à l'alcool, et un des effets de l'ivresse est évidemment d'induire le sommeil. On peut boire jusqu'à s'endormir profondément. Le troisième point concerne les inquiétudes de la vie, c'est-à-dire les soucis de la vie et la réticence à se détacher des choses du monde. En d'autres mots, une vie indisciplinée, un laisser-aller sur les affaires matérielles peut causer de la somnolence spirituelle. Dans ce cas, le disciple sera pris au dépourvu au retour du Christ. Pour ceux qui auront manqué de préparation, l'avènement du Seigneur sera vécu comme un piège. Ce sera une affreuse surprise, car elle leur fera prendre conscience qu'ils ont tout perdu pour l'éternité. Ce jour-là, il ne sera plus possible de se repentir.